En 1959, Lacan choisit pour thème de son 7e séminaire le sujet, à première vue inattendu, que constitue l'éthique de la psychanalyse. Si on le met en perspective avec les intitulés des 10 premiers séminaires, ce sujet a de quoi surprendre. La plupart de ces intitulés antérieurs se réfèrent en effet à des problèmes cliniques. Par exemple, les écrits techniques de Freud, la psychose, l'angoisse, l'identification, le transfert, ou du moins à des catégories étayées sur la pratique psychanalytique. Par exemple, le moi, la relation d'objet, les formations de l'inconscient, le désir et son interprétation. Dès lors, on peut se poser la question, comment Lacan en arrive-t-il à parler d'éthique ? Tout au long de son enseignement précédent, Lacan a mené une critique sévère des idéaux de la psychanalyse de son temps. Il s'agit là de visées que Lacan qualifie souvent d'adaptatives et qui, après 1945, tout en favorisant l'illusion de l'autonomie du moi, ont orienté la psychanalyse vers une conception diluant de plus en plus ce que la découverte de Freud avait de subversif. Et parmi ces idéaux que Lacan critique tout au long de son enseignement, par exemple, il y a l'idéal de non-dépendance, l'idéal de l'amour achevé supposé des sens génitales, l'idéal de l'authenticité. C'est en contrepoint positif à cette critique que Lacan en vient à s'interroger sur l'éthique de la psychanalyse et qu'il est conduit à relire le texte mal connu de Freud qui s'appelle « Le malaise dans la culture ». Ce texte, datant de 1929, aborde en effet de manière frontale et générale la question des idéaux produits par la civilisation et la société, et ce, dans le cadre d'une analogie établie entre les idéaux de la civilisation et les idéaux qui jalonnent le développement de l'individu. Freud désigne précisément sous le nom d'éthique ceux des idéaux de la civilisation qui concernent les relations des hommes entre eux. Freud prend comme exemple privilégié de ce qu'il aborde ainsi sous le nom d'éthique le commandement « Aime ton prochain comme toi-même », commandement sur lequel il revient à au moins 3 reprises dans « Le malaise dans la civilisation ». Qu'il s'agisse là pour Freud de plus qu'un simple exemple, témoigne le fait que, parallèlement à la première édition du malaise fin 1929, le chapitre 5 de ce livre, qui traite spécifiquement du commandement, fait l'objet d'une publication sous forme d'articles séparés, intitulée « Amour du prochain et pulsion d'agression » dans le numéro de janvier 1930 de la revue « Le mouvement psychanalytique ». Il n'est donc pas a priori surprenant que Lacan s'arrête lui-même longuement sur ce commandement dans son séminaire « L'éthique de la psychanalyse ». Nous aurons à nous interroger sur les raisons de cette insistance, qui vont sans doute bien au-delà d'une simple exigence de la relecture du texte de Freud. Pour être convergente quant à l'intérêt qu'elle porte au commandement, y compris du reste du fait qu'elle ne recherche aucunement, à travers l'analyse qu'elles en font, à donner une théorie ou un éclairage sur la religion, les démarches de Freud et de Lacan ne s'inscrivent pas, du moins, dans des perspectives très différentes. Alors que Freud procède à une évaluation de l'idéal collectif auquel a partie lié le commandement au regard de valeurs et d'idéaux sociaux extérieurs à la psychanalyse, parmi lesquels ce que l'on pourrait appeler le rationalisme tient une grande place, d'où de la part de Freud un regard principalement critique sur le commandement, Lacan, lui, s'attache d'abord aux réactions de recul, voire d'horreur, qu'il peut susciter, y compris chez Freud, et il cherche à en comprendre la raison d'un point de vue intrinsèque à la psychanalyse. Le séminaire « L'éthique de la psychanalyse » conduit Lacan, et sur ce point également il se distingue de Freud, à conférer au commandement, indépendamment de sa valeur pour la religion, une valeur du point de vue même de la psychanalyse. Je reviendrai assez longuement sur la problématique de Freud dans une première partie, où je vous montrerai, en suivant Freud, que le commandement est, selon l'auteur du malaise, à la fois une expression du procès culturel et la marque de son échec. La compréhension de ce qu'articule Freud constitue en effet le préalable indispensable pour comprendre le sens et l'originalité de la démarche de Lacan face au commandement. Dans un second temps, je m'efforcerai d'expliquer pourquoi, du point de vue de Lacan, ce commandement est de nature à susciter recul ou aversion. Une dernière étape de ce que je vous propose de voir ce soir m'amènera à m'interroger quant au sens du commandement. Est-ce que ce sont ses affinités avec le surmoi qui prédominent, ou bien offre-t-il le modèle d'un impératif éthique, en permettant ainsi d'éclairer la notion d'éthique que Lacan entreprend de développer? Donc, je vais d'abord voir le commandement, expression selon Freud du procès culturel et marque de son échec. Préalablement à la présentation de l'analyse de Freud, je souhaiterais apporter quelques précisions quant au sens que Freud confère à la notion de culture. Ni la traduction par « civilisation », qui était l'ancien titre des PUF de 71, ni celle par « culture », qui est l'option choisie par la nouvelle traduction de 1995, aucune de ces deux traductions ne rend exactement compte du sens que Freud donne au terme allemand « Kultur ». Dans le chapitre 3 du malaise, Freud écrit « Le mot « culture » désigne la somme totale des réalisations et dispositifs par lesquels notre vie s'éloigne de celle de nos ancêtres animaux et qui servent à deux fins, la protection de l'homme contre la nature et la réglementation des relations des hommes entre eux. » Le terme allemand « Kultur » recouvre donc pour Freud l'ensemble des comportements mis en œuvre par les êtres humains depuis la préhistoire pour se protéger d'un environnement hostile. À ce titre, la verticalisation, la fabrication d'outils, la domestication du feu, la construction d'abris relèvent de cette catégorie, à l'instar du langage et des exigences, idéaux ou systèmes symboliques les plus élaborés. De même, relève de la culture, au sens freudien, tout ce qui règle les relations sociales et s'impose à l'individu au nom de la communauté. La culture, au sens de Freud, constitue ainsi un ordre se distinguant de celui de la nature, qu'elle modifie, et au sein duquel l'homme se transforme lui-même. Freud parle d'un procès culturel de l'humanité. Les différentes manifestations de la culture sont ainsi envisagées comme un processus de développement se déroulant à l'échelle de l'humanité, processus de la représentation duquel Freud exclut toutefois toute idée de perfectionnement ou de progrès. Alors, bien sûr, Freud ne nie pas que tout ce qui est de l'ordre de la technique connaît un progrès dont on a l'impression qu'il est illimité, mais ce qu'il pense, c'est que le processus culturel lui-même ne procède pas de la notion de progrès. Je vais aborder l'intérêt du commandement en tant qu'expression du procès culturel. Dans le passage du malaise, introduisant la notion d'éthique précédemment citée, Freud souligne la fonction positive d'obstacle au penchant humain constitutionnel à l'agression, qui est celle du commandement. Le commandement « aime ton prochain comme toi-même » est la défense la plus forte contre l'agression humaine, écrit-il. De même que le processus éducatif chez l'individu, le procès culturel de l'humanité tend à dompter les tendances à l'agression. Il faut, écrit Freud dans un autre passage du malaise, que la culture mette tout en œuvre pour assigner des limites aux pulsions d'agression des hommes, pour tenir en soumission leurs manifestations par des formations réactionnelles psychiques. Parmi ces manifestations culturelles, susceptibles de jouer un tel rôle réactionnel, prennent place les systèmes religieux, les spéculations philosophiques, mais également des constructions collectives d'idéaux. Et Freud parle alors d'exigence d'idéal ou de formation d'idéal de l'humanité, qui peuvent être indépendantes de toute conviction religieuse. C'est donc bien en tant qu'un de ces idéaux collectifs, et non pas en tant que commandement spécifiquement religieux, que Freud est alors conduit à parler dans le malaise de l'impératif « aime ton prochain comme toi-même ». Cette sorte de valorisation du commandement, dont on mesure la portée particulière pour Freud dans un contexte politique qui est celui de la montée du nazisme et de l'antisémitisme, puisque donc le malaise a paru fin 1929 et l'entrée massive des nazis au Reichstag intervient en septembre 1930, peu de temps avant que ne paraisse une deuxième édition du malaise dans la culture qui avait rencontré un très vif succès lors de sa première parution. Donc, voilà le contexte politique dans lequel Freud écrit ce livre, qui est à mettre en relation avec le dualisme de la théorie freudienne des pulsions et le rôle que Freud fait jouer à l'hypothèse de la pulsion de mort. Je vais donc procéder à un certain nombre de rappels d'ordre théorique qui nous permettent de comprendre l'enjeu de ce texte, le malaise dans la culture. Freud, qui a d'abord articulé sa théorie du conflit psychique autour d'une opposition entre les pulsions du moi ou d'autoconservation et les pulsions d'objet, seules considérées comme libidinales, a ensuite déplacé cette opposition pour la faire passer entre, d'une part, les forces créatrices de liens sociaux de toute nature, qu'il regroupe sous le nom d'Eros, et, d'autre part, les tendances à la destruction et à l'agression qui le conduisent à postuler l'existence de la pulsion de mort. Cette théorie n'est ni simple ni simpliste. Il faut bien comprendre, un, que les deux espèces de pulsions n'apparaissent pratiquement jamais isolées l'une de l'autre, mais se combinent seulement dans des alliances ou des alliages aux proportions variables. Et deux, que pour Freud, la pulsion de mort se devine derrière l'éros comme un reliquat et se dérobe chaque fois qu'elle n'est pas trahie par son alliage avec celui-ci. Freud esquisse à cet égard une généalogie de la culture qui est aussi une généalogie de la socialisation. Il suppose que l'autre devient précieux pour l'homme originaire à un double titre, en tant que compagnon de travail d'une part, en tant qu'objet sexuel d'autre part. Ce serait donc sous l'action conjuguée d'Eros et d'Anonke, autrement dit de l'amour et de la nécessité, que l'homme aurait conclu des alliances avec d'autres hommes. Il est tout à fait frappant dans le texte que le processus de socialisation commence pour Freud après la constitution de la famille, tant qu'il y a l'homme, son objet sexuel et les enfants, ça n'est pas le processus de socialisation, hein. Donc la socialisation, c'est vraiment l'alliance avec d'autres hommes. De ce premier point de vue adopté par Freud, qui n'est pas le point de vue principalement développé dans le malaise, la culture et le commandement qui en est une expression privilégiée constituent donc principalement, dans le conflit Eros-pulsion de mort, un processus au service d'Eros, dont d'ailleurs Freud soulignera dans la deuxième édition que de son malaise dans la culture que l'issue est incertaine. C'est-à-dire qu'il ne décide pas c'est Eros ou Thanatos qui va l'emporter dans la culture. Mais la culture revêt également une essence répressive à l'égard d'Eros. Selon Freud, il est nécessaire pour la culture de restreindre la vie sexuelle pour renforcer les liens de la communauté humaine. La culture se sert en effet des liens libidinaux en les inhibant quant à leurs buts initiaux pour maintenir la cohésion des membres de la communauté. Elle suscitera ainsi de fortes identifications à partir des liens libidinaux, favorisera par exemple les relations d'amitié au détriment de la sexualité, exigera une vie sexuelle identique pour tous, etc. La question principale à laquelle Freud se trouve confronté en écrivant Le malaise est dès lors celle de savoir si les renoncements pulsionnels qu'implique la culture ne sont pas, eu égard en particulier à leurs résultats, excessifs et disproportionnés par rapport aux sacrifices imposés à l'éros. Donc j'aborde maintenant le troisième point, le commandement témoin de l'échec de la culture. Le traitement de cette question conduit Freud à articuler le procès culturel comme les idéaux collectifs sur lesquels il prend appui avec la fonction du surmoi. Donc je fais un petit détour pour rappeler que le concept de surmoi, introduit pour la première fois par Freud en 1923 dans Le Moi et le Ça, a été ensuite développé dans les nouvelles conférences sur la psychanalyse de 1933. Le surmoi est, selon Freud, l'instance justiciaire de notre psychisme. Il s'agit d'une instance interne au moi qui a pour fonction de juger les actes ou les pensées du sujet, voire de censurer ses désirs comme dans les rêves. Il est issu du clivage du moi qui s'est pris lui-même comme objet par identification avec l'autorité parentale extérieure. Le jeune enfant, qui ne possède pas d'inhibiteur interne, obéit à ses pulsions. Il ne renonce à ses satisfactions pulsionnelles que devant l'angoisse de perdre l'amour de ses parents. Ses parents, ou ce qui en tient lieu, bien sûr. Le surmoi se détache alors du moi par intériorisation de la menace de punition. C'est la première identification freudienne. Dès lors, la différence entre faire et vouloir le mal est annulée, puisque, indique Freud, rien ne peut se cacher du surmoi, pas même les pensées. Donc, l'autorité extérieure ne connaît pas les pensées du jeune enfant, ou du moins si à un moment l'enfant pense que l'adulte connaît ses pensées, il y a un moment où il se rend compte que non. En revanche, rien n'échappe au surmoi, puisque le surmoi est à l'intérieur du sujet. Or, dans le malaise, Freud tente, en se fondant sur une analogie entre le développement de l'individu et celui de la culture, de donner un plus grand développement à la fonction du surmoi en introduisant la notion de surmoi collectif. Les exigences de ce surmoi de la culture ne le cèdent en rien à celles du surmoi individuel. En effet, il ne se soucie pas du bonheur du moi en exigeant de lui la tâche impraticable de dominer sans restriction les pulsions du ça. En particulier, il ne se soucie pas de savoir s'il est possible à l'homme de se conformer à un commandement tel que celui de l'amour du prochain. Il convient également de tenir compte des distinctions qu'effectue Freud dans le malaise entre les notions de surmoi, de sentiment de culpabilité ou, selon les traductions, conscience de culpabilité et conscience morale. Je crois que c'est nécessaire de redéfinir un petit peu ces termes parce qu'on les emploie ou on les entend souvent sans nécessairement connaître exactement leur définition et leur place, leur articulation, les uns par rapport aux autres. Donc vous m'excuserez ces précisions un petit peu théoriques. Antérieure à la formation du surmoi, le sentiment de culpabilité n'est rien d'autre que l'angoisse devant la perte d'amour. Ce n'est que tardivement qu'il coïncide avec l'angoisse devant le surmoi. Il est l'expression d'un conflit entre le moi et l'influence étrangère que représente l'autorité externe. De la tension entre le besoin d'être aimé et le penchant à l'agression engendré par l'inhibition de la poussée vers la satisfaction pulsionnelle. Seconde par rapport au surmoi et s'en distinguant, la conscience morale ne constitue que l'une des fonctions du surmoi. Elle correspond à l'exercice d'une surveillance sévère et critique sur toutes les actions et les visées du moi. Le but du processus culturel est d'instaurer une unité à partir de nombreux individus en exigeant de chacun le renoncement à certaines satisfactions pulsionnelles. Or, ce but ne peut être atteint que par un renforcement toujours croissant du sentiment de culpabilité, difficilement supportable. Mais, selon Freud, le renoncement pulsionnel n'a plus d'effet libératoire. Bien au contraire, plus l'homme est vertueux, plus sa conscience morale se montre sévère avec lui. Cette particulière sévérité de la conscience morale est liée à l'omniscience du surmoi, auquel n'échappe pas la persistance des souhaits interdits. En dépit du renoncement effectué, l'action du sentiment de culpabilité sera d'autant plus forte qu'elle tire son énergie de la force pulsionnelle elle-même. Je vous cite un passage de Freud qui explicite bien sa position. Le renoncement pulsionnel qui nous est imposé de l'extérieur crée la conscience morale, laquelle exige ensuite un nouveau renoncement pulsionnel. La part d'agression que nous nous abstenons de satisfaire est reprise par le surmoi et accroît l'agression de ce dernier contre le moi. Je passe maintenant à la critique freudienne du commandement et à ses limites. Les arguments sur lesquels se fonde cette critique de Freud sont les suivants. Freud commence par récuser la valeur morale du commandement. Et alors, il accumule toute une série d'arguments avec une certaine véhémence. J'en donne une sorte de résumé à base de citations. « Mon amour est quelque chose qui m'est précieux, dit-il. Si j'en aime un autre, il faut qu'il le mérite de quelque façon. Soit parce qu'il est si semblable à moi que je peux m'aimer moi-même en lui, soit que je puisse aimer en lui l'idéal que j'ai de ma propre personne. » Autre argument. Aimer un étranger serait commettre une injustice envers les miens. D'ailleurs, l'étranger mérite en général mon hostilité, car il abuse de moi sans scrupule. Le commandement « aime tes ennemis » n'est pas une exigence plus abusive, c'est au fond la même chose. Freud estime ensuite que l'amour du prochain conduit, par une sorte d'effet de morcellement, à une dévaluation de l'amour. Si je dois l'aimer de cet amour universel, parce qu'il est un être de cette terre, tout comme l'insecte, le ver de terre, la couleuvre, alors, je le crains, il ne lui reviendra qu'un montant d'amour infime et qui ne saurait atteindre ce que, selon le jugement de la raison, je suis fondé à me réserver pour moi-même. Donc un argument quantitatif. Plus fondamentalement, il ressort de l'argumentation de Freud que ce commandement éthique tend à dissimuler que le prochain, à la méchanceté duquel l'expérience ordinaire que nous en faisons nous confronte, loin de susciter l'amour, provoque l'agressivité. Devant cette menace de désagrégation, la culture met tout en œuvre pour contrecarrer les pulsions d'agression en provoquant des formations réactionnelles psychiques telles qu'identification, relations d'amour inhibées quant au but et idéaux. Ce commandement en fait partie. En définitive, l'idéal de l'amour du prochain s'avère aller pour Freud à contre-courant de la nature humaine. Il est impraticable, sauf, remarque Freud, à le faire jouer dans une communauté aux frontières de laquelle il cesse de s'appliquer. Je cite Freud, « Il est toujours possible de lier les uns aux autres dans l'amour une grande foule d'hommes, si seulement il en reste d'autres à qui manifester de l'agression. » Freud évoque explicitement l'antisémitisme, du Moyen-Âge à celui de l'Allemagne nazie, comme l'extrême intolérance du christianisme envers ceux qui étaient restés au dehors. Ces critiques de Freud, d'inspiration rationaliste, peuvent apparaître comme une incompréhension fondamentale du sens du commandement. On pourrait y faire plusieurs objections. Je vais formuler plutôt sous forme de question. La valeur morale du commandement ne résulte-t-elle pas de ce qu'il exige un amour se détachant de l'amour de soi auquel le moi semble naturellement voué, y compris lorsqu'il croit aimer l'autre et à tout le moins un amour capable de changer le sens de l'amour de soi naturel. Et, par exemple, c'est ce que souligne le philosophe Kierkegaard, le commandement force en quelque sorte l'accès de l'amour de soi dont il délivre, écrit-il. Autre objection. La valeur de l'amour du prochain ne tient-elle pas justement à ce que cet amour est détaché de toute prédilection, donc aussi bien de tout mérite reconnu à l'autre ?